Donc je reprends une réflexion que j'avais développée il y a un mois de cela lors de notre réunion d'hommes ici, un samedi matin. J'ai intitulé, mais ça pourrait s'attacher à autre chose, l'esprit et l'amour. Alors en préambule, il est important de se rappeler que. Merci, c'est gentil. Il est important de se rappeler que. L'une des activités, effectivement, de tout chrétien et de l'Église, c'est l'évangélisation, comme l'a commandé le Seigneur, mais c'est aussi l'enseignement. Et on le voit au travers de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Je vous cite les versets, et après, libre à vous de regarder ou pas regarder, hein, parce que ça peut être un peu long. Jésus, après qu'ils eurent dîné, dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Donc là, il parle à Pierre en lui disant de s'occuper des agneaux, c'est-à-dire les personnes qui sont nouvelles dans la foi, qui sont juste converties. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Donc là, il s'agit d'agneaux devenus adultes. Donc, même adultes, nous avons toujours besoin, même dans la maturité de la foi, d'être enseignés et d'être fortifiés par la foi et par la parole en Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Alors, au travers de ce passage, indirectement, Jésus rappelle par les trois fois que Pierre l'a justement renié trois fois. Et dans les trois questions identiques successives, en fait, Jésus confirme par la même réponse le sacerdoce qu'il donne à Pierre et à tout croyant, c'est dans une certaine mesure de pouvoir s'occuper, de pourvoir aux besoins spirituels des agneaux et des brebis du Seigneur. Donc, il est important de pouvoir nous entretenir les uns et les autres par la parole, de nous enseigner. Par des thèmes divers et variés qu'on trouve dans la Bible. Et notamment aujourd'hui, celui que je vais développer, c'est celui justement, la lutte à laquelle nous pouvons être confrontés en tant que chrétiens, entre l'Esprit Saint du Seigneur qui est en nous et notre chair. Donc, dans Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous connaissons tous ce verset, et c'est lequel auquel tout croyant est confronté, puisque à partir du moment où nous avons décidé d'embrasser la foi, et d'embrasser, si je puis dire, le Seigneur également, ça veut dire qu'on se tourne vers lui et qu'on renonce à sa vie charnelle et terrestre d'auparavant. Et donc ça implique un choix, un renoncement. Et le Seigneur nous met face à ce choix, car ce n'est pas lui, au contraire des hommes, un dictateur. Il tend la main, il propose, il motive, mais la décision est toujours laissée à la personne. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et donc, dans le renoncement, bah, comme disait quelqu'un, choisir, c'est renoncer. Et si on choisit le Seigneur Jésus, on renonce au monde et on renonce à sa vie. Et quand on renonce au monde, en fait, eh ben, on renonce à sa vie dans le royaume de Satan. Alors, pourquoi j'ai dit le royaume de Satan? Parce que dans le monde, les gens qui se disent laïcs pensent que, en fait, ils peuvent choisir leur vie sur des bases intellectuelles, sur des bases de conscience qui leur est propre, en dehors de toute domination de Dieu, s'il existait, suivant leur pensée, ou en dehors de l'influence du diable, s'il existe. Ils pensent qu'ils ont une liberté complète. Et c'est l'erreur, parce que leur postulat de départ est erroné. Ils ne savent pas, ils ne reconnaissent pas que spirituellement, malheureusement, ils sont sous l'emprise du diable. Et donc, ils sont sous sa gouvernance. Et ceci, on le voit notamment au début du ministère de Jésus. Avant qu'il commence son ministère, justement, lui-même a été tenté. Il a été emmené dans le désert par l'Esprit et soumis à trois tentations. Et dans la troisième tentation, Matthieu chapitre 3, versets 8 à 9, Le diable mena Jésus encore sur une montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si, te prosternant, tu m'adores. » Si le diable se permet de dire qu'il lui donnera toutes ces choses, ça veut dire que lui-même les possède ou lui-même en a la domination. Alors, ça pourrait paraître étrange, comment Dieu a pu permettre que le diable prenne possession ? Ben, à l'origine, Dieu a fait toutes choses parfaites. Et le diable, qui était Lucifer, qui était le premier des anges, le plus beau, le plus performant, si je puis dire, s'est détourné de Dieu pour s'adorer lui-même. Et c'est de là qu'est venue sa chute. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, là encore, dans son amour, il a voulu leur laisser la liberté de le choisir, lui. Ce qu'ils n'ont malheureusement pas fait, en se laissant abuser par le diable. Donc les choses sont ce qu'elles sont jusqu'à ce jour. Et donc, pour attester que ce monde est malheureusement bien sous la gouvernance du diable, dans Jean, chapitre 14, verset 30, Jésus dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » Jean, chapitre 14, verset 30. Donc là, Jésus souligne bien que le prince de ce monde, à savoir Satan, a bien la domination et la gouvernance de ce monde, qu'il domine tous les êtres humains, sauf ceux qui ont fait allégeance, qui se sont tournés, qui se sont convertis vers le Seigneur. Parce que dans ce cas-là, il passe du royaume de l'obscurité au royaume de lumière, qui est le royaume de Dieu. Et malheureusement, quand nous étions dans le monde, nous ne voyions pas ça comme ça. Nous pensions que nous étions libres, que nous avions notre propre décision, et que nous étions notre propre maître, ce qui est complètement faux. Et encore une fois, dans Jean 12, verset 31, Jésus dit « C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. » Et un peu plus loin, « Oui, maintenant, le dominateur, Satan de ce monde, va être expulsé. » Et encore une fois, à un moment donné, dans ces différentes discussions avec les pharisiens, qui ont parfois été très violentes, dans l'une d'elles que vous connaissez, Jean chapitre 8, verset 44, Jésus s'adresse aux pharisiens parce qu'ils réprouvent leur manière d'agir, parce que ceux-ci disent mais ne font pas, et en fait, leur activité religieuse n'est uniquement là que pour servir leurs intérêts personnels, d'élévation sociale, d'enrichissement personnel, et ils sont hypocrites, parce qu'ils parlent de Dieu, mais en fait, ils ne parlent pas avec le cœur, sinon dans leur intérêt propre. Ils manipulent, en fait, comme souvent ce qui a été le cas dans l'histoire. L'Église, certaines églises ont parfois manipulé les êtres humains pour en avoir la domination. Donc là encore, on voit bien que c'est le règne de Satan. « Le père dont vous êtes issu, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc voilà. Malheureusement, dans le monde, on est sous la gouvernance de Satan et on est sous la gouvernance du mensonge et de toutes les convoitises et autres choses qui peuvent se passer. Et cette philosophie de gouvernance de Satan, elle est, enfin, je trouve à titre personnel, résumée dans le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 15, quand la parole nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc la convoitise de la chair, c'est, comme d'autres l'ont dit, le sexe, la convoitise des yeux, c'est l'argent. Et l'orgueil de la vie, bah, c'est la domination. Dominer de façon arbitraire ou dictatoriale sa famille, ou dominer un pays, ou dominer le monde, comme ce qui se passe actuellement. Ou tout du moins, nous sommes dans les prémices. Donc on voit que tout ceci caractérise le royaume de Satan, et bien sûr, indirectement, les gens qui sont dans ce royaume-là en sont imprégnés et vivent selon cette gouvernance. Alors que dans le royaume de Dieu, c'est complètement différent. Lors de sa conversion, le croyant, justement, quitte le monde de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 10, verset 9 dit, en parlant de la foi, justement, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Non seulement sauvé de la gouvernance de Satan, mais sauvé tout court, puisqu'il nous donne accès à la vie éternelle. Alors, on pourrait se dire, bah, c'est super, on est sauvé. Mais nous restons, malgré tout, dans le monde physique, matériel, temporel. Et donc, nous restons dans un monde qui est sous la gouvernance de Satan. Et Jésus-Christ l'a très bien dit. Dans Jean chapitre 17, verset 11, il dit, en parlant à son père, lorsqu'il fait sa prière sacerdotale pour ses disciples, et avant d'être arrêté, en parlant de ses disciples, il dit, « Ceux-ci sont dans le monde. » Et dans Jean 14, il dit, « Parce qu'ils ne sont pas du monde. » Donc, ses disciples, effectivement, croyaient en lui, et donc avaient eux-mêmes quitté le royaume de Satan pour être dans le royaume de Dieu, en compagnie de Jésus-Christ. Donc, en résumé, il leur dit à ses disciples qu'il doit les quitter, qu'il va postérieurement leur envoyer le Consolateur, l'Esprit-Saint. Mais en attendant, il dit, voilà, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce qui marque bien, donc, la différence et la transition entre le fait d'avoir été avant dans le monde, sous la gouvernance de Satan, et d'être toujours présent dans le monde, mais d'être spirituellement sous la gouvernance de Dieu. Et donc ça, c'est bien sûr toute la différence, et c'est en cela que vient le salut. Et dans ce cadre-là, nous sommes appelés les uns les autres à grandir spirituellement. Nous avons vu dans le préambule que Jésus demandait à Pierre de paître ses agneaux et ses brebis. Et donc ça veut bien dire qu'il y a une marche spirituelle, il y a une croissance à acquérir, une maturité, à l'image de ce qu'est l'être humain quand il naît un bébé, il devient un enfant, un adolescent et puis un adulte. On a le même processus spirituel. Au départ, on est amené à prendre du petit lait spirituel parce qu'on est tout nouveau. On vient à peine de quitter la gouvernance de Satan avec tous ses concepts et on reçoit de la lumière. Et quand on sort de l'obscurité, trop de lumière d'un coup, ça aveugle, ça éblouit. Donc il faut distiller peu à peu la connaissance de la parole pour que la personne, petit à petit, justement, enlève cette obscurité qui est en elle pour être remplacée par la lumière. Et donc, il faut y aller graduellement. On ne donne pas à un bébé des morceaux de viande dès la naissance. D'abord, il n'a pas de dents pour les mâcher. Et puis, d'un point de vue tube digestif et estomac, il n'est pas prêt encore à pouvoir digérer de la viande. Donc, on voit bien qu'il y a une augmentation graduelle des capacités de chacun à pouvoir acquérir de la connaissance, et pas seulement de la connaissance pour la connaissance, sinon à se nutrir pour, d'un point de vue croyant et spirituel, pour grandir. Et on est amené, dans ce cadre-là, naturellement, grâce à cet enseignement et à cette croissance spirituelle, à donner des fruits. Jean, chapitre 15, versets 1 et 2, dit « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. » L'Esprit de Dieu, alors je dis le vigneron, son père est le vigneron, Dieu, mais il est aussi esprit. Et en parlant de Dieu, son Père, Jésus dit, « Il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruit. » Et là, le fruit est au singulier. Ça veut dire que même s'il n'y a qu'un seul fruit, pour Dieu, c'est suffisant. Il va pouvoir travailler là-dessus. Puisqu'il dit ensuite, « Et il immonde tout sarment, qui porte du fruit, là encore du singulier, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, Dieu n'est pas exigeant, si je puis dire. L'exigence, c'est que le chrétien se maintienne sous la protection, la gouvernance de Dieu, qu'il soit attentif à sa parole, attentif à développer une relation personnelle avec lui, pour peu à peu, rempli par l'Esprit, commencer à donner du fruit, ne serait-ce qu'un seul. Et on voit bien, notamment dans Galates, la différence qu'il y a entre les fruits ou les œuvres qu'on obtient sous la gouvernance de Satan et les fruits qu'on obtient par l'Esprit. Dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, je ne vais pas tous vous les citer, mais on retrouve de la part de Paul la citation sur les ivrognies, la fornication, la médisance, les convoitises, les mensonges, etc. Il nous développe toute une liste de péchés, longs comme le bras, qui sont les fruits naturels d'être sous la gouvernance de Satan et d'être sous l'emprise du péché. Et dans Galates 5, 22, juste plus bas, il nous cite les fruits de l'esprit. Et ces fruits, en fait, c'est pas le résultat, c'est la conséquence, c'est la manifestation de l'esprit qui doit nous remplir davantage chaque jour, l'esprit de Dieu. Et donc il cite la charité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc on voit des choses complètement opposées et qui n'ont rien à voir à ceux des fruits du monde charnel. Donc, on n'est pas forcément amené à pouvoir donner tous ces fruits d'un coup, mais l'important, c'est d'être engagé et d'être patient et de pouvoir travailler avec le Seigneur sur soi-même. Et Paul nous montre bien que pour nous, c'est une difficulté que de pouvoir nous engager dans une voie spirituelle, même converti, même en ayant la foi, puisqu'on est toujours dans ce corps de mort, comme le dit lui-même. On est toujours soumis à ce boulet que nous traitons. Dans Romains chapitre 7, alors je ne vais pas tout citer, mais Paul nous parle en effet de cette difficulté. Romains chapitre 7, verset 14 jusqu'à la fin, il dit notamment « En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je n'approuve point ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien ne m'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Donc on voit bien cette lutte dont nous-mêmes nous sommes témoins en nous-mêmes, entre notre chair, notre corps et l'Esprit de Dieu. Et au chapitre 8, il nous donne un verset de soulagement. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Parce que la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc cela veut dire qu'en toutes circonstances, nous serons confrontés à ce choix entre obéir ou laisser faire notre chair ou laisser l'esprit en nous agir contre notre chair pour la dominer. Alors, il nous donne également des moyens et des armes pour pouvoir justement lutter contre le diable qui peut venir nous tenter, mais aussi contre nous-mêmes. Nous-mêmes, nous avons parfois des mauvaises habitudes, des mauvais penchants. Et le diable n'a rien à voir avec ça. Mais il faut en être conscient, être disposé à vouloir justement plaire au Seigneur pour nous émonder de tout ça. Alors dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, justement, le Seigneur nous invite à être conscients de ça. Il nous dit « C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que, enraciné et fondé dans la charité, dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Donc, il faut être conscient de cet amour que Christ a pour nous, et justement, profiter de cet amour, vivre cet amour avec Christ, pour que justement, ceci nous remplisse et fasse que, de façon conséquente, la chair sera moins présente en nous, elle aura moins d'influence, parce que nous serons justement remplis d'Esprit de Dieu, remplis de l'amour de Jésus-Christ pour nous, et remplis de cette relation, de cette connexion avec le Seigneur, qui, petit à petit, va occuper tout l'espace en nous. Et outre cette partie-là, également, on va dire que le Seigneur nous donne des armes plus matérielles, si je puis dire, dans le domaine spirituel. Et dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, il nous donne toute une liste de choses dont on doit se armer pour justement être prêt à lutter dans ce monde, que ce soit contre notre chair ou contre les puissances malfaisantes. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Puisque le diable n'est pas seul, il a également un tiers des anges qui se sont corrompus avec lui et qui sont devenus des démons. Et c'est une réalité spirituelle. Ces démons sont dans le monde et ils agissent auprès des personnes. Et donc, dans ce verset-là, le Seigneur Paul nous fait prendre conscience de ça et nous invite justement à nous revêtir de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a vraiment une bataille, une guerre spirituelle intense. Et c'est là tout l'objet de la vie chrétienne, entre autres. C'est qu'on doit faire face à cette bataille que les gens dans le monde ignorent ou ne veulent pas reconnaître, pensant qu'ils sont libres de ça et qu'ils ont la faculté de pouvoir justement être non pas sous cette emprise-là, mais c'est une erreur encore une fois. Parce qu'eux-mêmes sont charnels, puisqu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, et donc soumis à cette gouvernance. Verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. Donc là, on voit que c'est des conseils, on va dire, très terre à terre, puisqu'il nous parle de nous ceindre de la vérité, de revêtir la cuirasse de la justice, d'avoir les pieds chaussés par le zèle de l'évangile de la paix, prenant le bouclier de la foi. Hein? Donc tout ça, et le casque du salut. Donc tout ça, ce sont des références à des choses physiques, matérielles que nous connaissons. Et donc c'était une image qui nous le donne. Et à titre personnel, j'ai une anecdote à vous raconter. J'ai eu à faire le service militaire et j'étais dans une école militaire pour cela. Et l'une des choses que nous apprenait, primordiale, c'est qu'un soldat doit être en toutes circonstances et en tout lieu avec son arme. Qu'il ait besoin, quand il est sur le terrain, et c'est pas facile, qu'il ait besoin de faire ses besoins, qu'il ait besoin de dormir, alors c'est le moment de dormir, quoi qu'il fasse, même pour manger, il doit toujours avoir son arme avec lui pour être prêt à répondre aux ordres et à attaquer ou à se défendre. Et ça, c'est une chose dont on ne peut pas faire l'économie. Un soldat, et avant toute chose, après avoir fait des manœuvres, après avoir sué, après avoir été mouillé, après avoir été fatigué, la première chose qu'on a à faire quand on est sur le terrain, qu'on a un moment de répit, c'est nettoyer son arme pour la rendre fonctionnelle. C'est la première chose. Ça passe avant même que vous mangiez, avant même que vous dormiez. Vous pouvez être fatigué, éreinté. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que vous preniez soin de votre arme pour être prêt, en toutes circonstances. Et donc, si dans le monde physique, dans le monde matériel, on a ce genre de choses qui existent, eh bien, sur le plan spirituel, c'est la même chose. En toutes circonstances, on doit connaître la parole, comme l'a fait Jésus-Christ quand il a été tenté par le diable. Par 3 fois, il lui a répondu par la parole. Donc il est important de connaître la parole, mais surtout ce qui est important, c'est d'avoir cette relation personnelle avec le Seigneur pour justement être rempli de son esprit et avoir cette capacité naturelle, je dirais, à pouvoir nous défendre. Parce que quand on enseigne ça à un militaire de devoir prendre soin de son arme, c'est pas seulement qu'il le fasse sur le plan physique, mais c'est surtout que, entre guillemets, sur un plan spirituel, il acquiert cette faculté d'être toujours prêt à, en premier lieu, privilégier ses moyens de défense. Et là, c'est la même chose. On doit être, de façon privilégiée, être en mesure de toujours assurer notre défense face aux convoitises, face aux tentations, face aux attaques spirituelles. Tout à l'heure, Lydie citait le cas de Hao qui devait faire face à un juge qui l'interrogeait sur sa foi. Il y a quelques années, avec mon épouse, on avait décidé d'adopter. Et donc, toute personne qui veut adopter fait l'objet d'une enquête des services sociaux. C'est très long, c'est un processus très long. Et nous n'avions pas caché que nous étions chrétiens. Et nous n'avions pas caché que l'enfant que nous aurions à charge, si je puis dire, bénéficierait d'une éducation chrétienne. Nous avons dû passer devant une commission où il y avait, je crois, plus de 13 personnes qui nous ont interrogés là-dessus. Et avant de passer devant cette commission, j'ai lu beaucoup la Bible à différents endroits. J'ai cherché des armes, parce que je savais qu'on allait nous interroger là-dessus. Et notamment l'une des armes que j'avais trouvées, que vous connaissez tous, je crois que c'est dans Romains, Corinthiens, lorsque Paul parle aux gens qui sont d'un esprit naturel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et je leur avais dit, vous nous interrogez sur des sujets spirituels sur lesquels vous n'êtes pas compétents pour parler, parce que vous-même, vous êtes des êtres naturels qui sont éloignés de Dieu. Et à la fin, on avait, entre guillemets, ils avaient botté en touche, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pris de décision pour dire oui ou non, et ils avaient décidé de confier une nouvelle enquête à un autre département qui était limitrophe à la Sarthe. Mais voilà, en toutes circonstances, que ce soit même dans notre travail, on peut être amené à devoir, entre guillemets, nous justifier. Nous justifier de notre foi en Seigneur, nous justifier de notre espérance, qui est la résurrection. Et pour cela, il faut être armé, il faut connaître la parole, qui est une épée à double tranchant, comme le dit la parole. Et une chose aussi qui est importante à nous souvenir, c'est que Jésus-Christ disait qu'il avait donc une communion totale avec son Père. C'est pour ça qu'il n'a jamais péché. Il disait, je fais tout ce que mon Père fait, et ma nourriture consiste à faire la volonté de mon Père. Donc, en résumé, je dirais que, quelles que soient les circonstances, il ne faut pas perdre courage. Il faut être conscient de cet immense privilège que nous avons d'être aimés par le Seigneur, puisqu'il est mort sur la croix pour nos péchés, d'avoir pu avoir cette chance de croire en lui, de croire en son œuvre, de croire en sa résurrection et de croire que nous vivrons avec lui éternellement. Si vraiment nous sommes armés de ça, il y a vraiment peu de choses qui peuvent nous faire tomber. Et même si nous devions mettre un genou à terre, comme c'était le cas pour Pierre, le Seigneur est toujours là pour le relever, avec tact et avec amour. Merci pour votre écoute.